Bien, alors bonjour. Donc nous sommes en compagnie du scénariste Régis Autière à l'occasion de la sortie du tome 12 de la série Aqua Blue. Donc merci Régis de bien vouloir répondre à nos questions. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez retracer votre parcours et nous indiquer comment vous en êtes arrivé à la bande dessinée?
Alors ça va peut-être être un peu long, disons que j'y suis arrivé presque par hasard, dans le sens où contrairement à beaucoup de dessinateurs surtout qui dès 7-8 ans en fait se disent moi je veux faire dessinateur de bande dessinée, moi ça m'est venu petit à petit, c'est-à-dire que j'ai toujours eu par contre l'envie d'écrire, j'ai toujours beaucoup aimé écrire, même tout petit je faisais des rédacs qu'on finissait plus, et donc j'étais plus parti sur l'écriture de romans et la bande dessinée était plus un hobby que j'avais à côté, j'en ai toujours lu aussi beaucoup et c'est arrivé petit à petit au gré de rencontres de par mon ancien métier où voilà je travaillais pour une association qui sortait un magazine à destination des étudiants et dans laquelle je m'occupais de la rubrique bande dessinée donc j'ai rencontré des auteurs pour les interviewer j'ai écrit des chroniques de bande dessinée, je continue à en lire beaucoup parallèlement à ça. J'ai aussi croisé des dessinateurs débutants qui voulaient faire de la bande dessinée. J'ai intégré leur association et puis petit à petit j'ai commencé à monter des projets de bande dessinée parce que la bande dessinée, en fait, contrairement au roman où on travaille vraiment tout seul, me permettait de travailler avec quelqu'un d'autre et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup dans la bande dessinée, qui pour moi est essentiel. Et voilà, donc j'ai commencé, j'ai monté un premier projet, on l'a retravaillé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il finisse par échouer. On laisse tomber, donc j'en ai monté un deuxième, voire un troisième, je sais plus trop combien, enfin bon, plusieurs projets comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui aboutisse, qui soit signé chez un éditeur. Donc c'était Paquet à l'époque. J'ai fait plusieurs bandes dessinées chez lui, et puis après j'ai fait d'autres bandes dessinées pour différents éditeurs. Je sais pas si je cite les bandes dessinées que j'ai faites ou une partie. Enfin,
Oui, bien sûr.
voilà, il y a eu Au-delà des nuages, il y a Deux briques et de sang qui étaient sélectionnés à Angoulême l'année dernière. Enfin, il y en a une quarantaine, donc ça en fait peut-être un peu beaucoup. Chez Delcourt, j'ai fait. Il y a eu Yerzan, il y a La guerre secrète de l'espace, et puis il y a Vent contraire, qui est un diptyque dont le deuxième tome est paru il y a quelques mois.
Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos influences? Quels sont les éléments qui vous ont un peu influencé dans l'écriture des différents scénarios que vous réalisez?
Alors pour chaque scénario, ça va être des influences différentes. Alors il y a un background un peu qui est général, qui est l'ensemble des films que j'ai pu voir, l'ensemble des livres que j'ai pu lire. Et puis après, pour chaque projet en particulier, alors souvent je pars du dessinateur, donc ça va être plutôt les influences du dessinateur qui vont être présentes au démarrage du projet. Par exemple, là, je viens de faire Abélard avec Renaud Dilly. Là, on est vraiment dans l'univers de Renaud. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, puisque ça faisait un petit moment qu'on avait envie de refaire un bouquin ensemble, voilà, je me suis vraiment inspiré de son univers. Donc la première source d'inspiration, c'était l'univers de Renaud. Puis après, il y en a eu d'autres. Pareil, quand je travaille avec Antonio Lapone sur Accord sensible, je pars sur un univers qui est celui d'Antonio, donc qui est très inspiré par le jazz, par les années 50, par Bruxelles aussi, puisque c'est une ville dans laquelle il s'est installé. Par contre, quand je vais travailler sur La guerre secrète de l'espace, où c'est une commande là de l'éditeur qui m'a demandé d'écrire un scénario sur la conquête spatiale, donc là, bah, je vais me plonger dans à la fois dans des romans et puis surtout après dans des ouvrages plus techniques sur ce que c'est que la conquête spatiale, sur Gagarine, sur Spoutnik, sur Apollo, etc.
Très bien. Alors, donc en ce qui concerne Aqua Blue plus particulièrement, donc voilà, vous reprenez une série très connue, qui a quand même un sacré vécu avec plusieurs albums parus. Alors, comment est-ce que vous avez abordé ce nouveau cycle, et est-ce que c'est pas trop difficile de reprendre une série qui a duré déjà depuis un certain temps?
Oui et non. Oui, parce qu'évidemment, on arrive derrière d'autres auteurs. En plus, c'est une série qui a une certaine notoriété, donc il y a une grosse attente derrière de la part des fans, des aficionados de la série. Et puis non, parce que j'y suis allé, je crois que Renaud c'est pareil, en fait, on y allait un peu comme des gamins, on a réagi plus comme des lecteurs, comme des auteurs à la rigueur. C'est-à-dire que voilà, c'est une série qu'on avait lue, qu'on avait appréciée. Et c'est une série aussi sur laquelle on avait des manques, c'est-à-dire que tous les deux on avait beaucoup aimé le premier cycle qui se passait sur Aqua Blue, et après donc les trois diptyques qui ont suivi se passent ailleurs, et on était resté un peu sur une frustration en se disant ouais, il y a plein de trucs qui n'ont pas été qui n'ont pas été exploités sur cette planète, sur voilà ses habitants, etc. Et on avait envie de retrouver la planète Aquablue, et donc on est parti de cette frustration de lecteur pour faire notre propre Aquablue, quoi. Et en ce sens-là, on l'a presque pris comme un jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on nous donnait une boîte de Playmobil avec, voilà, c'était la boîte de Playmobil Aquablue, et puis nous, on s'amusait à jouer avec les petits éléments et raconter une histoire avec.
Et justement, est-ce que ça n'a pas été difficile de reprendre le matériau existant finalement et d'avoir une base de travail effectivement importante, mais est-ce que c'était pas un frein à l'imagination et au développement du...
Pas plus que sur une série historique, je dirais. Je parlais tout à l'heure de la guerre secrète de l'espace. J'aurais pu parler aussi de Briquet de sang, donc qui se passe au fameux mystère de Guise en 1914. Voilà, à chaque fois, c'est des séries où on a un arrière-plan historique qui est très fort, donc avec des événements qui ont existé, des personnages qui ont existé, et il faut tenir compte de tout ça. Pour Aquablue, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est parti d'un décor qui existait. C'était le cas par exemple pour quand je parlais de Briquet de sang, le décor du fameux mystère existe. Là, pour Aquabou, c'est pareil. La planète existe, les personnages existent. On les a pris un peu comme des personnages historiques, enfin personnages historiques entre guillemets. Mais en tout cas, on a tenu compte des événements qui s'étaient déjà déroulés dans la série, comme si on avait eu affaire, voilà, comme si on racontait une histoire de fiction qui se passait dans un décor historique à un moment précis de l'histoire. Et en ce sens, les contraintes sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que voilà, j'ai lu 15 fois chaque tome d'Aquablue pour voir vraiment tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait été dit, et pouvoir le réutiliser dans ce que je disais, puis pas faire de contresens par rapport à ce qui avait été raconté auparavant. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc oui, il y a des contraintes, mais il y en a dans chaque projet qu'on peut faire, en fait.
Alors donc pour vous, ça n'a pas tellement changé de la façon de travailler que vous aviez d'habitude.
Pas vraiment, donc de toute façon techniquement c'est la même chose. Après au niveau de l'inspiration, je dirais qu'on est même plus libre que sur un projet historique, parce que ça reste quand même de la fiction, qu'en plus il y a un petit côté second degré, série B dans Aquablue qui nous permet quand même des latitudes assez larges par rapport à la vérité scientifique au sens strict. Donc ouais, non, ça a pas été plus contraignant qu'un autre projet. J'ai pas changé ma façon de travailler par rapport à d'autres projets que j'ai pu faire.
Donc plus précisément, quelles ont été vos inspirations sur le bah, sur, pour écrire cet album et qu'est-ce que vous comptez exploiter éventuellement comme source d'inspiration pour ce qui va suivre?
Alors, la source d'inspiration principale, c'est peut-être l'actualité, ou enfin l'actualité, ou on va dire l'actualité des 15-20 dernières années. Ça a été aussi la série mère qui m'a servi donc de source d'inspiration. Et puis après, il y a des ouvrages de science-fiction que j'ai pu lire il y a longtemps, et qui m'ont fait penser d'ailleurs, qui me faisaient déjà penser à la base d'Aquablue. Je me souviens de Oz de Philip Joseph Farmer, qui raconte justement l'implantation de terrain sur, enfin de terriens sur une planète habitée par une espèce intelligente, avec une histoire d'amour d'ailleurs qui fait aussi penser à Avatar, mais comme on sait, Avatar est inspiré par Aquablue, où un humain tombe amoureux d'une autochtone alors qu'ils sont deux espèces différentes, et voilà, donc ça crée un scandale. Sinon, je sais qu'il y a aussi un bouquin qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado, c'est le Troupeau aveugle de John Brunner, qui est un livre en fait qui met en avant comment dire, toutes les thématiques écologiques qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est mis en avant, mais c'est raconté de façon insidieuse, c'est-à-dire que c'est des extraits d'articles de journaux, c'est des pancartes, c'est voilà, des tas de petits éléments qui arrivent, qui mis bout à bout, en fait, en lisant, on se rend compte, mais en plus, c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 70, moi je l'ai lu dans les années 80, donc 15, 20 ans, peut-être après qu'il ait été écrit. Et je me rendais compte que voilà, tout ce qui était abordé comme ça de façon anecdotique, et puis c'était de la prospective, voilà, on se plaçait un peu dans le futur, c'était en train de se réaliser. Et je trouvais ça assez fascinant, et donc c'est quelque chose qui m'a marqué dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je me sentais assez en phase en fait avec la série Aquabook, parce qu'il y a aussi une thématique écologique qui est assez forte. Enfin voilà, et que j'avais envie de retrouver dans le cycle qu'on est en train d'aborder. Et donc voilà, donc au niveau des sources d'influence, ça va être ça, mais bon, il y en a plein d'autres. Mais après, ça va être aussi des sources d'influence qui sont des sources d'inspiration qui sont plus ou moins conscientes. C'est-à-dire que je vais être influencé par des choses, mais sans, voilà, sans me dire, tiens, je vais m'inspirer de ça.
Effectivement. Donc, justement, par rapport aux différents personnages qui apparaissent dans le. Parce que là, dans cet album, finalement, on retrouve un peu tous les principaux personnages de la série. Et bon, chacun a plus ou moins d'importance, mais est-ce que vous pensez en accorder plus à certains qu'à d'autres? Est-ce que vous avez des personnages que vous préfériez, que vous avez envie de développer davantage?
Alors, disons qu'on avait une galerie de personnages, ouais, qui a été élaborée tout au long des 11 tomes qui nous ont précédés. Il y a des personnages qui étaient un peu obligatoires, qu'il fallait qu'on retrouve absolument, parce que voilà, on les a retrouvés sur tous les albums. Donc, c'est évidemment Nao qui est le personnage principal. Ses deux acolytes, Carlo et Rabat, Maurice Dupré, pareil. Donc, c'est des personnages qu'on retrouve à chaque fois. Donc, il fallait qu'ils soient présents. Et puis, Cibo, là, le petit robot. Après, il y a des personnages que j'avais envie de retrouver, notamment Minuit. Qui était très présente sur le premier cycle et qui après est devenue complètement anecdotique. Alors pour moi, c'était vraiment un des personnages forts de la série. En plus, voilà, c'était un personnage féminin qui était intéressant justement du fait qu'elle soit d'une espèce différente de celle de Nao, parce que le couple Nao Minuit était super intéressant et fonctionne très bien. Donc elle, j'avais vraiment envie de la retrouver. C'est pour ça qu'elle vient vraiment au premier plan sur le premier tome. Elle va l'être un peu moins sur le suivant, encore que. Donc ça s'est fait un peu au détriment des personnages qu'on voyait beaucoup, donc voilà, Carlo, Rabat, etc. Donc on les trouve, ils sont un peu à l'arrière-plan sur ce premier tome, on va les retrouver plus présents sur le second. Et puis il y a des personnages, notamment celui de Chiara de la Piedra, qui est une femme qui est apparue sur les tomes 10 et 11 d'Aqua Blue, donc le dernier diptyque. Et en fait, elle a un rôle dans ce diptyque qui est tellement surprenant, enfin pour ceux qui l'ont lu, surtout à la fin, parce qu'elle implique une façon d'être de Nao qui n'avait pas sur les cycles précédents, que je me suis senti presque obligé en fait de réemployer ce personnage pour expliquer pourquoi Nao réagissait comme ça par rapport à cette femme-là. Et en plus, c'est un personnage que je trouvais aussi intéressant parce qu'il y a quelque chose d'ambigu en fait dans ce personnage-là. Et puis on va avoir donc il y a d'autres personnages comme ça qui réapparaissent, qui vont réapparaître. Bon, tout simplement parce qu'en fait, en gros, quand j'ai écrit l'histoire, il y avait des rôles à attribuer. Et je me suis rendu compte que ben, ces rôles-là pouvaient très bien être occupés par des personnages déjà existants. Donc voilà, plutôt que d'en créer, je suis allé les chercher dans les tomes précédents. Et puis il y a des personnages qui vont apparaître sur le cycle qu'on est en train de faire, qui ne sont pas forcément apparus sur le tome 1 parce qu'il fallait déjà qu'on remette en place tout un tas de choses, mais qui vont apparaître sur les tomes suivants.
Pour en venir un peu avec le, puisque c'est un travail avec le dessinateur également. Alors, comment s'est décidée votre association avec Renaud et quel regard vous portez sur ce qu'il a fait sur cet album?
Alors ça s'est fait très simplement, en fait c'est tout bêtement l'éditeur qui nous a mis en contact. Je connaissais pas Renaud, je connaissais un tout petit peu son travail. J'avais Valamont chez moi, mais je l'avais pas encore lu au moment où on a commencé à travailler ensemble. Je me suis rendu compte que je l'avais en plus en rangeant mon bureau. J'ai tellement de bouquins et de bandes dessinées à traîner chez moi que voilà. En fait, quand je l'avais acheté, j'avais dû me dire bon, je vais attendre le tome 2 voilà, avant de le lire. Le tome 2 étant jamais sorti, voilà, j'avais jamais lu le tome 1, donc je l'ai lu depuis. Mais j'avais découvert son boulot en fait dans Science et Vie Junior, dans une petite histoire qui est en bande dessinée de, ça devait faire 4 pages, je pense, qui racontait l'histoire d'un kamikaze. Et je me dis, ouais, ce type-là, il a une maîtrise graphique qui est vraiment intéressante. Mais voilà, mais je connaissais pas Renaud, ça me disait rien. Et c'est Thierry Jor, donc qui est un des directeurs de collection, un des éditeurs de Delcourt, qui avait travaillé donc avec Renaud sur Valamont. Qui, quand on a commencé à chercher un dessinateur, a dit, mais attendez, il y a quelques années, on avait déjà fait faire un essai sur Aqua Blue, parce qu'à l'époque, il était déjà question que Renaud reprenne Aqua Blue. Donc, il avait fait des essais des dessins de perso, des mises en ambiance, des choses comme ça. Et il a dit, je vais le rappeler pour voir s'il est dispo, parce qu'il, voilà, Renaud avait quitté Valamont parce qu'on lui avait proposé un boulot intéressant dans l'animation, je crois. Or voilà, l'entreprise qu'il a embauchée ayant fermé, Renaud se retrouvait de nouveau disponible pour la bande dessinée. Donc Thierry Jor l'a contacté. Renaud était emballé parce que voilà, il adore Aquablue. Donc il a fait un essai, il a fait deux pages d'essai. Ça n'a pas tout à fait convaincu Guy Delcourt au départ. Le rendu des personnages notamment était peut-être un peu trop photographique. Il n'avait pas fait de traits noirs autour des personnages notamment. Donc il a retouché un peu les planches et puis il a emporté le morceau et voilà, donc on a commencé à travailler ensemble. Moi je trouve qu'il fait un super boulot qui va aller en s'améliorant en plus je pense au fil des albums. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il arrive à atteindre un niveau de détail vraiment, vraiment bluffant. Et avoir un rendu comme ça des matières, des textures, notamment sur, voilà, sur les vaisseaux, sur les décors de ville, des choses comme ça. Sans pour autant que ça ne fasse figer. Et il a réussi aussi à se réapproprier les personnages d'Aquablue, ce qui n'était pas forcément évident quand un dessinateur doit se réapproprier les personnages d'un autre. Notamment les personnages secondaires, et je trouve que voilà, ça passe bien, ça s'intègre bien dans le décor, ça fait pas non plus roman photo, et donc voilà, je suis très satisfait de son boulot.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont vous travaillez avec lui, comment les tâches se répartissent?
De façon très naturelle, en fait, moi, je fais j'ai d'abord fait un synopsis. Après, pour chaque tome, je fais un séquencier. Donc, je décris séquence par séquence, en fait, tout ce qui va se passer pour que Renaud sache exactement où on va. Donc, avec le nombre de pages à chaque fois pour chaque séquence. Et une fois qu'on est d'accord là-dessus, et que ça a été validé par Delcourt, je fais le découpage, donc page par page. Donc, je fais page 1, il y a 5 cases. Donc, case 1, on voit ça, ça et ça. Je sais pas, ça va être un plan large. On voit tel décor, on voit tel et tel personnage dans telle et telle position. Je mets les dialogues à côté. Case 2, etc. Voilà, case par case, je lui envoie ça. Et puis lui, il fait un storyboard rapide. Il m'envoie ça, on regarde si tout fonctionne. Et puis à partir du moment où on est satisfait tous les deux, il passe à la réalisation.
Et donc, est-ce qu'on est reparti pour quelques années avec Aquablue alors? Ou ça va être vous pensez faire une expérience plus courte?
A priori, il y a quand même quelques années, puisque là, on part sur un cycle qui fera 4 ou 5 tomes. Avec un rythme de parution d'un tome par an. Donc on est parti a priori sur 4 ou 5 ans.
Formidable. Alors, quels sont vos projets?
Il y en a pas mal. Déjà, en fait, c'est boucler toutes les séries que j'ai entamées. Donc là, il y a le tome 2 de La Guerre secrète de l'espace qui sort chez Delcourt au mois de janvier ou février. Normalement, il aurait dû sortir là, mais on a eu un petit souci sur la couleur. Les planches, en fait, sont terminées depuis le mois de juin, je crois, et sont en cours de colorisation. Là, normalement, d'ailleurs, ça doit se terminer en ce moment. Sinon, je travaille sur un nouveau diptyque avec Renaud Dilly, donc qui voilà un peu dans l'univers d'Abélard. Avec Antonio Lapone aussi, je travaille sur un autre projet là de rétro-futur. On se retrouvera voilà dans les années 2000, mais tel qu'on les voyait dans les années 50. Un peu le même principe que, un peu le même esprit que ce qu'a fait Fred Duval avec Philippe Berthet sur Nico. Bon, le ton sera un peu différent et la ligne graphique aussi. Je continue la Yarzan aussi. Là, on est en train de boucler le tome 2. Je travaille puis pour d'autres éditeurs, pour Casterman. Là, je suis en train de travailler sur une série en 4 tomes qui se passe pendant la guerre 39-45. Il y en a d'autres, j'en oublie, mais bon, ça fait déjà pas mal, donc je vais arrêter.
Merci beaucoup donc pour d'avoir bien voulu répondre à nos questions, et puis bonne continuation pour la suite, et on attend la suite d'Aquablue, bien entendu. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
On a tenu combien de temps là?